Chapitre 3. Deux grands coups de gong annonçant le dîner remplirent toute la maison de leur retentissement. Claude se hâta de descendre après avoir donné quelques soins à sa toilette. Parmi les fictions élégantes que Miss Picknell entretenait avec amour, la plus chère à son cœur était celle du dîner. Pour rien au monde, elle n'eût consenti à lui donner le nom plébéien de souper, bien qu'il consistât généralement en un seul plat, poisson ou rôti, suivi d'un dessert de fromage ou d'une tarte deux fois par semaine. Au dernier coup de gong, Miss Picknell sortit de sa chambre, vêtue d'une robe de soie noire, surmontée d'un bonnet architectural et parée de ce bracelet que Claude Forest appelait le tombeau des rois chevelus. Elle descendait l'escalier sur ses roulettes, suivie d'Olive. Claude les rejoignit à mi-chemin et présenta ses respects à Miss Picknell, qui les accepta avec une certaine condescendance. Ils entrèrent au salon. M. Gibson et M. Ferrol s'y trouvaient déjà. Comme ce dernier occupait deux chambres au second étage, il avait le pas sur ces messieurs du troisième qui devaient se résigner à le voir tous les soirs offrir son bras à Olive Beaumaris pour la conduire à table. Suivant l'usage anglais, qu'elle estimait préférable à toutes les coutumes exotiques, Miss Picknell entrait la dernière dans sa chambre à manger. Pour éviter de faire naître une rivalité mortelle entre ces messieurs du troisième, Miss Picknell prenait indifféremment le bras de l'un ou de l'autre. Claude, quand il était appelé à cet honneur, s'efforçait de l'apprécier, mais n'en suivait pas moins d'un œil d'envie le couple qui le précédait. Il faut reconnaître pourtant que M. Ferrol n'abusait pas de ses avantages. Il n'adressait la parole à Olive que pour lui offrir la moutarde. Quand, par hasard, il la regardait, c'était d'un air de méditation abstraite, comme s'il étudiait le développement de sa jolie tête au point de vue phrénologique. « Monsieur Gibson, » dit Miss Tabitha en taillant de généreuses tranches dans le gigot de mouton, « j'espère que vous ferez preuve de bon appétit ce soir. Je vous avoue que vous m'avez inquiété hier. » « Je ne vois pas trop comment on manquerait d'appétit quand on doit grimper 5 étages pour aller se laver les mains après sa journée faite, » répliqua M. Gibson d'un ton bourru. « 3 étages, Monsieur Gibson, 3 étages. » « Je dirais 4 pour vous faire plaisir, mais c'est une concession. Voyons, Miss Beaumaris, sans partialité, si on peut l'attendre d'une dame, dites-moi ce que vous pensez de ceci. Depuis 3 ans, je loge au 5e, avec le piano de ce jeune homme et tous les chats du voisinage comme orchestre. Depuis 3 ans, Miss Picknell me promet une chambre plus accessible. » Et monté sur le fait, il aspire à descendre, murmura Claude, qui savait que M. Gibson ne pouvait souffrir les citations françaises. « Vous dites ?» fit M. Gibson en fronçant le sourcil. « Oh, rien !»« C'est bien ce que je pensais. Décidément, Miss Picknell, votre maison a de nombreux désavantages. » « Eh, monsieur, qui vous oblige à y rester ?» fit Miss Tabitha majestueusement, mais sans la moindre aigreur. Ces escarmouches se renouvelaient si fréquemment que personne n'y prenait plus garde. « Qui m'oblige à rester ?»« Hum !» fit lentement M. Gibson, tandis que ses yeux se fixaient au plafond d'un air rêveur. « Il ne faut pas que des considérations étrangères à vos propres intérêts vous retiennent ici !» poursuivit Miss Picknell en indiquant, par une légère secousse qu'elle imprima à ses boucles d'oreilles en agate, son intention de plaisanter agréablement sur ce sujet. « Ne consultez que votre inclination, je vous en prie. Si vous désirez qu'on descende vos malles, elles seront demain matin sur le palier. Cette maison est une résidence particulière, jamais un écriteau ne s'est montré à mes fenêtres. » « Ne vous croyez pas dans un garni et obligé d'avertir un mois à l'avance. Je connais plusieurs gentlemen qui seront charmés de participer aux désavantages de ma maison. » « Très bien, Miss Picknell, fort bien en vérité, » dit M. Gibson d'un air satisfait. « Me voilà remise à ma place. Je crois après tout que je ne déménagerai pas avant la semaine prochaine. Qu'en dites-vous, Miss Beaumaris ?» Miss Beaumaris songeait à autre chose. « Si je pouvais choisir, moi, » dit-elle en appuyant son joli menton sur le bout de ses doigts effilés, « j'irai demeurer à la campagne où il y a de la vraie neige blanche et du houx. » Et des rouges-gorges, acheva M. Férol. Chacun se regarda stupéfait. Si le chat de Miss Picknell s'était mêlé à la conversation, on n'en eût pas été beaucoup plus surpris. Cependant, M. Férol, après avoir délibéré un instant avec lui-même, renonça à faire une autre remarque et l'entretien reprit son cours normal. Après le dîner, M. Gisson sortit pour faire le tour du quartier au pas de course, malgré le fog et le froid. Cet exercice quotidien rentrait dans son régime. M. Férol s'installa au coin du feu, en face de Miss Picknell, occupée à quelque ouvrage de crochet. Olive s'assit au piano d'un air lamentable. « Bouchez-vous les oreilles, j'ai un morceau à étudier, ce sera effroyable » dit-elle avec candeur. Un nocturne de Schumann était ouvert devant elle. Claude se mit à en fredonner la mélodie et tressaillit douloureusement aux premiers accords. « Mettez-y quelques bémols de plus, je vous en prie » s'écria-t-il. Olive rougit. « Ne vous moquez pas de moi, je ne prétends point être musicienne, vous le savez. Je vous ai recommandé de vous boucher les oreilles. Si quelqu'un voulait bien me les boucher à moi-même pendant que je joue, j'en serais reconnaissante. Quelques bémols de plus, dites-vous. » Claude s'approchant du piano, Olive lui céda le tabouret avec empressement. Comme il posait les doigts sur le clavier, le cri du marchand d'orange s'éleva à l'un des bouts de la rue, tandis qu'à l'autre bout, l'on entendait celui d'un crémier attardé « Milk, ou !» Les deux voix étaient sonores et formaient un accord fruste qui n'était pas sans harmonie. Claude en fut frappé. Tandis qu'il prêtait l'oreille à cette mélodie monotone, qu'interrompait par intervalles deux notes éclatantes, il sentit tout à coup la musique humble mais pénétrante de ces bruits de la rue. Le roulement lointain des voitures et cette rumeur confuse qui est la voix d'une grande ville faisaient un accompagnement au duo. Machinalement, Claude tourna la tête d'un air plus attentif du côté de la fenêtre, tandis que ses mains effleuraient le clavier avec une certaine hésitation. Le rythme et l'intonation venaient bien sous ses doigts, les deux voix se confondaient, se rapprochaient, puis s'éloignaient. Il les traduisait dans une gamme un peu assourdie et suivait leur cadence régulière en l'accompagnant de quelques arpèges continus. « Très ressemblant, dit Miss Picknell. Dans ma jeunesse, je jouais la bataille de Prague où l'on entendait distinctement le son des trompettes et le galop des chevaux. » Claude fit une légère grimace. Ce n'était pas de l'harmonie imitative qu'il avait voulu faire. Il avait essayé de mettre en musique une impression fugitive assez vague, une sorte de sympathie pour ces deux voix inconnues qui étaient sorties tout à coup de la grande rumeur collective et s'y étaient replongées. « La poésie est partout, » se dit Claude. Mais Olive réclamait impérieusement sa leçon, elle avait hâte d'en finir avec sa corvée. Pendant une heure, elle martela son nocturne, avec une patience qui attendrissait le professeur et des hérésies qui le faisaient bondir. Les souffrances de Claude n'étaient pas sans quelque compensation. Ses jolis doigts, coupables de tant de fausses notes, rencontraient parfois les siens sur le clavier, et à chaque nouvelle bévue, Olive regardait son maître d'un petit air repentant. Enfin, elle arriva à la dernière mesure et s'élança de son tabouret avec une exclamation de délivrance. Claude voulut prendre sa place pour essayer un bout de mélodie qui lui trottait dans la tête, mais Olive lui ferma le piano presque sur les doigts en s'écriant « Assez, assez de musique pour aujourd'hui! Une note de plus et je suis morte !»